Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré Claire Berest, l'autrice de L'épaisseur d'un cheveu, au salon littéraire Faites lire du Mans, dans le cadre des directs organisés par les radios associatives locales de la Frama. Je n'ai pas pu rencontrer Claire Berest comme prévu le dimanche, alors je suis allée à sa rencontre le samedi et j'ai enregistré notre rencontre avec mon enregistreur. J'avais beaucoup de questions à lui poser. Mais commençons d'abord par une lecture de l'Incipit. Quand Étienne le Chevalier s'indigna par lui que le serveur du Petit Brésil le reluqua encore une fois d'un drôle d'air, nous étions lundi dernier aux alentours de 17h30. Étienne avait comblé sa matinée de correction sur le manuscrit d'un auteur dont il poussait au paroxysme la joie mauvaise de détester le travail. Il avait avalé vers 13h une omelette, debout dans sa cuisine, accompagné d'un morceau de roquefort. Et à l'heure du café, il était parti pédalant en direction du Petit Brésil, l'humeur joviale, car une seconde journée débutait pour lui, dévolue à son projet personnel, qu'il jouissait encore de tenir en toute clandestinité, habillant l'escapade d'un charme secret. Il était alors impossible d'imaginer que 3 jours plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne tuerait sa femme. « Est-il désappointé, ce serveur, que je n'ai bu qu'un café en 3 heures ?» se demanda Étienne. « On occupe l'espace, donc on consomme », avertissait un petit autocollant plaqué sur la vitre, et il privatisait 2 tables pour lui tout seul. Il s'étalait. C'est vrai, il avait son ordinateur portable ouvert devant lui et son carnet noir, un sac à dos volumineux sur une chaise. Il ne souhaitait pas le poser par terre de peur de le salir, son casque de vélo sur une autre, sa veste, des livres, ses clés d'antivol, le téléphone ainsi qu'un magnétophone gris à cassette pour s'enregistrer. Étienne préférait prendre 2 tables. Plus qu'un périmètre, il désirait se créer une atmosphère, c'était son droit. Ce qui était stérile dans le fait de lui en vouloir, s'insurgeait-il, c'est que la terrasse était vide à cette heure-ci. Donc il ne voyait pas en quoi sa colonisation spatiale pouvait poser un problème pertinent au serveur. Il venait souvent ici, au Petit Brésil, depuis que son contrat avait été réduit à temps partiel, s'installant aux mêmes tables, les plus à gauche sous l'auvent, n'ayant informé personne de son projet, pas même sa femme, vive. Le serveur faisait pourtant mine de ne jamais le reconnaître. C'est qu'il ne m'aime pas, conclut Étienne avec un sentiment d'injustice. Mais il fut soudain traversé par l'hypothèse que le serveur ne le reconnaissait tout simplement pas, parce que, au fond, rien ne saillait dans son physique. Ce lundi soir, ils étaient invités au vernissage de l'exposition d'un artiste que Vive portait au Pinacle. Étienne s'en souvenait parfaitement. Mais il sortit tout de même l'agenda papier rangé dans son sac à dos pour voir se matérialiser avec netteté l'emploi de son temps consigné au stylo noir. Pour vérifier, faire le vrai au sens étymologique, confronter une réalité avec la preuve de son exactitude. Il avait bien écrit dans son agenda d'un cuir souple, inusable malgré les années, qu'il conservait avec un soin religieux et rechargeait chaque mois de décembre d'une nouvelle tranche de feuillets calendaire vierge, il avait bien noté dans la colonne du jour « Exposition avec Vive ». C'était Vive qui était invitée au vernissage. Elle aurait pu s'y rendre avec n'importe qui, mais elle demandait toujours à Étienne de l'accompagner. Il était son mari. Quand il n'était pas disponible, parce qu'une date de rendu imminente approchait et qu'il devait travailler le soir, à de rares exceptions près, elle restait avec lui. Elle regardait un film dans le salon, préparait un dîner rapide qu'Étienne avalait à son bureau. Ce renoncement plaisait à Étienne. Elle aurait à l'évidence pu sortir sans lui, même s'il y avait eu quelques fâcheries entre eux à ce sujet, au début de leur relation, car Étienne préférait, il est vrai, qu'elle restât. Oui, ce renoncement lui plaisait. Étienne aimait à se voir contre le reste du monde, en romantique. Même s'il n'en portait aucun des oripeaux excentriques et tapageurs, car toute sa vie s'était organisée dans le mouvement mystique d'être deux. Tout s'était pensé dans l'accompagnement exclusif que sa femme et lui-même s'offraient l'un à l'autre. Il n'avait pas d'enfant, et l'épreuve de cette pureté qu'Étienne n'observait pas chez les couples de ses amis se jouait à bas bruit, sans feu d'artifice, mais dans les subtilités comme celle de renoncer à un petit plaisir, sans rancœur. Oui, pureté, le mot n'était pas trop fort, jugea-t-il, il était adéquat. Voici ma rencontre avec Claire Berest.
Je vous remercie d'accepter cette interview, Claire Berest. Vous venez de publier donc L'épaisseur d'un cheveu qui raconte, on le sait dès le départ, l'histoire d'un homme qui va tuer sa femme.
Tout à fait.
Pourquoi avoir choisi de raconter un féminicide du point de vue de l'assassin ?
Alors bonjour à tous. C'est un choix qui s'est imposé très vite. Je suis partie de l'envie de travailler sur l'homicide conjugal. C'était le départ de ce livre, sa genèse. Et je me suis plongée dans beaucoup de cas d'homicides conjugaux, donc dans une matière brute, mais aussi dans un certain nombre de livres qui réfléchissent à ce sujet, donc une littérature plus scientifique, de sciences humaines sur le sujet. Et en fait, c'est dessiné... le besoin absolu d'être dans la chair de l'autre, pour reprendre le titre d'un livre très important de Joël Guillet sur la question, pour tenter non pas de donner une réponse, mais de cheminer au plus proche de ce qui se produit dans ce déraillement, dans le cas de ces hommes où il n'y a aucun antécédent de violence. C'est ça qui est très important. Il y a évidemment beaucoup d'homicides qui sont dans le cadre de violences conjugales. Moi, tout de suite, mon sujet, c'était... la bascule, inattendue, imprévisible, point d'interrogation. Et donc, pour être dans une honnêteté vis-à-vis de mes personnages et puis des lecteurs qui voudraient bien peut-être ouvrir le livre, j'ai décidé très vite de me placer du point de vue de l'homme, de l'auteur des faits, d'être dans sa tête, sans jugement moral.
D'accord. Alors, moi, je vais me permettre d'aller contre la présentation de votre roman sur le rabat.
Bien sûr.
De couverture, où il est écrit qu'il s'agit d'ausculter notre part d'ombre. Moi, en vous lisant, je me suis dit que cela répondait plutôt à une autre question.
Oui.
Qui n'est pas la violence qui est en chacun d'entre nous, mais ce qui pousse un homme à commettre un assassinat.
Alors, effectivement, ce qui est très frappant, c'est dans les homicides conjugaux, c'est que bien sûr chaque parcours est singulier. Chaque homme qui est arrivé à ce paroxysme-là de violence inattendu d'une certaine manière est unique et son histoire est unique. Donc, il n'y a pas effectivement une seule part d'ombre qui serait partagée par un certain nombre de personnes. En revanche, et c'est ça qui m'a aussi intéressée, c'est que quand je me plongeais dans tous ces cas d'homicides conjugaux, je traquais aussi des échos, des motifs. Non pas qui viendraient donner une clé en main, une solution, mais y en avait-il des motifs qu'on pouvait retrouver d'un cas à un autre? Et il est vrai que, par exemple, le fait qu'une histoire de domino machiavélique mis en place qui va au-delà de la sphère du couple avec peut-être des tensions professionnelles, des tensions financières. Il y a un certain nombre de choses que je pouvais retrouver d'un cas à un autre, ce qui permettait en tout cas de réfléchir sur cet acte-là. Mais évidemment, et je vous rejoins, chaque parcours est singulier. Il s'agit bien ici de l'histoire d'Étienne le Chevalier, et pas d'un archétype, d'un portrait robot, d'un meurtrier conjugal, évidemment.
Moi, j'ai quand même l'impression que ça... Enfin, oui, c'est un personnage... mais qu'en même temps, ça nous explique ce qui amène un homme à se sentir autorisé à tuer.
Alors, c'est intéressant comme terme. Je ne sais pas s'il se sent autorisé dans le sens où je ne suis pas sûre qu'il y ait une conscientisation de l'acte avant qu'il se produise. Je pense qu'il y a une mise sous tension telle, comme une cocotte minute prête à exploser, qui monte et qui finit littéralement par faire dérailler la pensée. Le criminologue Daniel Zaguri parle de vide de la pensée, une sorte de climax, et que il faut absolument faire cesser cette tension. Mais là, vous avez effectivement raison, c'est que se joue quelque chose de la place dans la société. On a la sensation que ces hommes, à un moment donné, avec ce qu'on leur a toujours peut-être renvoyé comme étant la place du masculin, la personne en charge, qui réussit, voilà, qui est à la bonne place, et que on renvoie des signaux de d'incapacité à embrasser absolument cette place-là, et que peut-être que le regard social qui met la barre trop haute vient nourrir aussi ce déraillement. Après, loin de moi l'idée de faire voilà un schéma, mais c'est sûr qu'on peut tout à fait prendre ce fil-là pour essayer de comprendre le cheminement de la bascule dans l'homicide.
Alors, je voudrais parler d'écriture maintenant, puisque c'est...
Ça tombe bien, c'est un roman.
Parce que c'est véritablement un roman, et il y a par moments des retours à la ligne au milieu d'une phrase. Est-ce
oui.
que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors, c'était presque un petit peu accidentel, dans le sens où je n'ai pas décidé ça avant d'écrire. Mais comme j'ai décidé de me placer dans la tête d'Étienne Le Chevalier, dans sa chair, dans son flux de pensée, j'ai essayé d'épouser aussi le flux de la pensée. C'est en même temps des vagues, il y a en même temps des soubresauts, il y a en même temps des chutes. Ce qui se passe dans notre tête, ça va en même temps très vite, et puis ça passe d'un sujet à l'autre. En même temps, c'est quelqu'un d'organisé, de méticuleux. Bref, j'ai essayé de me plonger dans tout ça pour être au plus proche de la pensée d'Étienne. Et ce faisant, de temps en temps, il y avait ce besoin de longues périodes de phrases, et puis hop, de micro-chutes, et puis de reprises. Et c'était pas aussi net que ça dans le projet. Ça s'est fait avec le rythme de l'écriture. Et puis, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Et alors là, en toute humilité, je pense au flux intérieur, au flux, au stream of consciousness. J'ai un très mauvais accent anglais, de Virginia Woolf. Voilà, avec cette idée vraiment de ressac, de flux, de reflux. Et ça s'est matérialisé avec, de temps en temps, ces passages à la ligne, mais qui sont avec une virgule qui vient accompagner parfois des points-virgules. J'aime beaucoup le point-virgule. On l'utilise pas assez, je trouve, dans les romans. Parce que c'est assez ambigu, le point-virgule. Le point, c'est quelque chose de clos, de définitif, et la virgule accompagne le mouvement d'après. Alors, qu'est-ce que c'est le point-virgule ? Est-ce qu'il ferme ou est-ce qu'il ouvre ? Voilà, et donc j'avais besoin d'accompagner toutes ces pensées dans ce personnage qui se bouscule et qui sent qu'il est au bord, qu'il est peut-être sur une ligne de crête.
Il y a, alors, à la fois, on remonte le temps jusqu'à ce qui a déclenché, on va dire, à l'origine du crime, on va dire, qui est presque, c'est leur rencontre, on peut dire ça. Et en même temps, on a l'interrogatoire. J'ai trouvé que l'interrogatoire, c'était vraiment super intéressant dans la manière dont lui, il est absent à lui-même.
Oui, effectivement, la composition du roman est presque comme un étranglement autour d'Étienne. On est dans les 3 jours avant la bascule dans l'homicide, et on est dans les 2 jours après, où effectivement, ce sont les premières auditions, la garde à vue, premières auditions avec les forces de police. Et c'était très important pour moi, voilà, de tourner autour de ce moment-là, de donner le maximum d'éléments d'une certaine manière. Et il est vrai que quand on se plonge, ce qui a été mon cas, dans des vrais PV d'audition d'hommes à qui est arrivé, voilà, ce passage à l'acte tragique. Ce qui est très frappant, c'est que ce sont des hommes souvent très bavards sur eux-mêmes, qui ont envie de se raconter, qui ont besoin de se raconter peut-être d'où ils viennent, qui ils sont, leurs études, leur vie, mais qui, au moment où la parole se rapproche de ce pourquoi ils sont là, la parole s'étrangle elle-même et elle se tarit, et le silence s'impose comme s'ils étaient incapables de faire le récit. Et qu'effectivement, il est impossible pour eux d'assumer, il y a presque un déni. Parfois, il y a une sorte de cécité, il y a une absence de ce qui s'est produit. Et je trouvais ça passionnant comme les policiers tentent de faire naître ce récit. De les acculer d'une certaine manière pour commencer à prendre en charge ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est vrai que je me suis inspirée de beaucoup de vrais PV d'audition pour ce dialogue, cette maïeutique, hein, presque, de faire accoucher l'autre, hein, avec cette, comme vous l'avez tout à fait dit justement, cette absence à eux-mêmes. Et ben justement, on va essayer de les ramener dans la réalité de ce qui s'est produit.
Oui, parce que là, c'est clairement, je l'ai pas tué.
Alors, est-ce que c'est aussi net que cela? Disons que vous remarquerez que les polices ne posent jamais la question aussi brutalement que cela, en disant « Pourquoi avez-vous tué votre femme ?» Non, 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 ils vont parler des jours avant, qu'est-ce qu'ils ont fait ce jour-là, où est-ce qu'ils sont allés, de comment ils se sentaient, est-ce qu'il y a une dispute, et qu'effectivement, par exemple, si on étudie les temps, Étienne parle de sa femme au présent. Il y a une forme de déni, et je pense que la police est habituée à ce que faire accoucher ce récit-là va être très difficile, et donc il faut en même temps pas brusquer, mais en même temps faut encercler la personne. Et donc effectivement, est-ce qu'il pense littéralement qu'il n'a pas fait ce pourquoi il est là, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore acceptable par sa propre psyché. Je pense que j'ai un avis sur la question. Je mets des indices dans le texte, et c'est à chacun de se faire peut-être sa religion sur la question.
D'accord, ben merci beaucoup.
Et ben merci à vous.
En rentrant chez moi le soir, j'ai relu la citation en exergue de L'épaisseur d'un cheveu. La bascule dans le passage à l'acte criminel tient souvent à l'épaisseur d'un cheveu, selon la formule célèbre d'Étienne de Griff, Daniel Zaguri, la barbarie des hommes ordinaires. Et j'ai aussitôt noté, je crois qu'il n'y a pas de bascule. Je crois que la pensée ne s'arrête pas. Sauf peut-être au moment du crime lui-même, afin de déshumaniser l'autre, comme on écrase une mouche. Je crois que tuer sa femme n'est pas un accident. C'est simplement terriblement une autre pensée, une altérité radicale. Je ne crois plus à la banalité du mal, concept philosophique pensé par Hannah Arendt, même si effectivement celui ou celle qui tue est un être humain comme moi, comme le rappelle Georges Bataille. Comme vous et moi, les responsables d'Auschwitz avaient des narines, une bouche, une voix, une raison humaine. Ils pouvaient s'unir, avoir des enfants. Je crois aussi que l'assassin n'est pas médiocre. Je ne crois pas qu'il manque d'intelligence, ni de connaissances. Mais je crois que cet assassin ne se pense pas comme un assassin, mais comme un héros, ou au moins comme quelqu'un qui se défend contre le mal. Et notamment dans le cas des féminicides, mot qui permet de conceptualiser les crimes commis envers les femmes. Ils tuent des femmes dont ils estiment qu'elles leur appartiennent, y compris leur vie. Et comme me l'a dit Costa Gavras à propos des criminels nazis qui ont laissé des preuves de leurs crimes, ils sont fiers. C'était ma rencontre avec Claire Berest et son roman « L'épaisseur d'un cheveu ».